Audiolib présente Les exilés de Byzance de Catherine Hermary Vieille, lu par Raphaël Moutier. À Michel El-Houri, auquel me lie plus de 40 années d'une indéfectible affection. À la mémoire de Sybille Sursock, enlevée trop tôt à l'amour des siens. Pour pénétrer dans le passé, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut qu'il vous émeuve et vous interpelle. Il faut aussi un point d'ancrage dans le présent. Le fil de la mémoire. Tania Reyes. Chapitre 1. 29 mai 1453. À 3 heures du matin, l'obscurité noyait la ville de Constantinople, ses magnifiques édifices, ses palais princiers, les milliers de demeures plus ou moins opulentes des habitants. Depuis 3 mois, les soldats grecs et italiens, assistés d'un petit renfort de Génois et de Vénitiens, se tenaient en haut des remparts de la ville, rafistolés après les bombardements dans la plus grande hâte par les vieillards, les femmes et les enfants. En face d'eux, une cohorte de soldats, de cavaliers, les fameux janissaires coiffés de blanc, et la multitude de gueux qui suivaient habituellement les armées, d'innombrables bêtes, bœufs, chameaux, moutons. Le sultan Mehmet ne devait pas être loin, prêt à lancer ses troupes à l'assaut de la perle de l'Orient chrétien. Cette cité millénaire était protégée depuis si longtemps par son enceinte triangulaire, aux nombreuses tours dont les 3 plus puissantes faisaient face à la terre ferme. Au sud, le Bosphore, et à l'est, la Corne d'Or, dont une chaîne barrait l'accès aux marins turcs. Toutes les portes de la ville avaient été barricadées. Il faisait doux. C'était une de ces nuits de printemps où le parfum des fleurs des jardins de Constantinople rappelait aux hommes la douceur du passé. Un passé que chacun désormais savait aboli. Combien de temps résisterait-il à la horde turque dont les hurlements, le vacarme incessant des tambours et des trompettes les terrorisaient depuis des semaines? Nul n'espérait plus de secours de l'Occident. Seule la République de Venise avait envoyé 2 grosses galères et 400 soldats avec armes et cuirasses. Le pape, les rois de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Hongrie était resté indifférent au massacre annoncé de milliers de chrétiens d'Orient. Devant son palais des Blachernes, le basileus Constantin XI, botté de cuir rouge sur lequel était brodé l'aigle d'or à 2 têtes de l'Empire, contempla un long moment, droit sur son cheval, la foule qui le cernait. L'angoisse crispait les visages éclairés par les flambeaux. Les regards étaient implorants, comme si la présence de leur empereur détenait le pouvoir de les protéger. Beaucoup brandissaient ou tenaient serrés contre leur poitrine les saintes icônes qui les avaient à maintes reprises sauvés de leurs ennemis. Depuis la veille, les cloches des multiples églises sonnaient sans relâche. L'immense procession s'était répandue par toutes les rues de la ville. Orthodoxes, catholiques, prêtres, évêques et nonnes par centaines. Femmes en pleurs, enfants accrochés à la tunique de leur mère. Aux cris de guerre des Turcs et au « Ilaha, illa, Allah » répondait le Kyrie Eleison, chanté d'une seule voix. Autour du basileus se tenait son plus proche ami, Phrasès, l'archevêque de Mytilène. Jean Giustiniani, un Vénitien qui avait mené la défense avec héroïsme, et son propre frère, Thomas Paléologue. Épuisé par des nuits de veille, l'empereur semblait soudain retrouver sa vigueur. Sa voix tonnait. « Hier, mes amis, mes frères et sœurs, nous avons écouté la Sainte Messe dans notre vénérée basilique Sainte-Sophie. Tous nous avons prié et communié. »